Encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous voulons encore une fois l'inviter afin que ce soit lui-même qui prenne la parole et parle à ses enfants, que son esprit dispose les nôtres afin que nous puissions recevoir ce que notre Père Céleste a préparé pour nous. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est toi qui nous permets d'être ici. Ce soir ou ce matin, c'est ta main puissante qui nous a gardés, protégés. Et tu nous as conduits jusqu'ici, Seigneur. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu as prévu, préparé quelque chose de spécial pour nous. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes, que tu prennes le contrôle, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, afin que ta parole, Seigneur, remplisse les cœurs. Seigneur, que ta parole change les vies. Seigneur, que ta parole s'enracine en nous afin qu'elle porte des fruits. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Viens nous remplir de ton Esprit Saint. Viens ouvrir nos oreilles. Viens ouvrir, Seigneur, tout ce qui est à ouvrir, afin que nous puissions être aptes à t'écouter, à comprendre ce que tu veux nous communiquer ce soir. Bénissons ton nom. Nous te glorifions. Et nous disons merci. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, encore une fois, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis vraiment le Seigneur de me permettre d'être celle qui apporte le message d'aujourd'hui. C'est une grâce infinie que le Seigneur m'accorde et je bénis son nom pour cela. Sans trop tarder, nous allons commencer notre message d'aujourd'hui, notre méditation qui se portera sur le thème d'une question en fait que bon nombre d'entre nous, on ne se pose pas, peut-être une fois ou deux, mais la plupart du temps, on oublie de s'opposer, de s'opposer cette question et quand même, c'est une question que je trouve pertinente dans le sens que c'est une question qui va définir finalement la ligne conductrice de nos vies ou de notre vie. Alors, la question, connais-tu les projets que Dieu a pour toi? Oui, c'est un passage qu'on entend souvent, le passage que j'avais partagé sur la toile. Dans Jérémie 29, on l'entend vraiment souvent ce passage, mais des fois on lit la parole de Dieu et on la lit à un moment donné, le Seigneur nous ouvre les yeux et on comprend ce verset d'une autre façon. C'est vraiment merveilleux la parole de Dieu parce que même si c'est un verset qu'on lit souvent, qu'on entend souvent, le Seigneur peut passer par cette parole pour nous enseigner plus. Et c'est pour cela que on dit que c'est une parole vivante, c'est une parole intemporelle qui agit selon les desseins de notre Père céleste. Amen. Alors, c'est un passage qui m'a interpellée. Dernièrement, quand je demandais à Dieu c'est sur quoi on va partager ce moment, c'est un passage qu'on entend, comme je le disais souvent, mais c'est un passage aussi qui dit beaucoup, beaucoup de choses parce que ça vient nous mettre, genre, je dirais, nous ramener tout au début, tout au début de notre vie, tout au début de notre existence. Pourquoi? Parce que c'est une parole que le Seigneur prononce sur quelqu'un dès son existence, dès les premiers jours ou les premières secondes de sa vie ici-bas, ou même avant que la personne ne naisse. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si on commence par le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Excusez-moi. Ce verset nous rappelle ce que le Seigneur a planifié pour chacun d'entre nous. Quand il a décidé de nous former dans le ventre de nos mères, avant même que nous ne venions ici au monde, il avait déjà planifié nos vies. Il avait déjà mis en place un mécanisme qui concernera chaque vie dans le fond. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque personne que le Seigneur crée, il a un but pour cette personne. Mais nous, ce qui se passe, c'est que on entend ces paroles et on ne se pose pas cette question. Mais oui, Dieu maudit, mon Père céleste maudit qu'il a de bons projets pour moi. Mais on ne se pose pas la question, mais quels sont ces projets? Quels sont ces projets pour que je puisse en apprendre davantage, que je puisse en connaître davantage, afin que peut-être je puisse comprendre mieux ce que le Seigneur a prévu pour moi. Ce sont des projets de bonheur. Bien sûr, parce que Dieu est bon. Dieu ne peut pas planifier quelque chose de mauvais, de mal pour quelqu'un. C'est toujours des bons projets, des projets de paix, afin qu'il nous donne un bon avenir, de l'espérance. Ce n'est pas seulement au niveau matériel, ce n'est pas seulement au niveau des choses palpables qu'on voit, mais c'est toute une panoplie de choses que le Seigneur a déjà mises en place pour chacun, quand on y pensait même nous créer. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui commence quand la personne est là, non. Il planifie avant même que la personne ne soit là. Alors, quelles sont les questions peut-être qu'on pourrait se poser pour savoir, pour essayer de comprendre, pour essayer de creuser un peu afin que nous puissions avoir une idée de ce que le Seigneur a préparé pour nous. Mais dans quel but, au fait? Le but, c'est de savoir afin qu'on puisse travailler et aller jusque là où obtenir ce que le Seigneur a prévu, préparé. Notre destinée, en fait. Première question que moi, je me suis posée, qu'est-ce que je sais de ma vie? Qu'est-ce que de ma vie, oui, quand je dis ma vie, c'est vague, mais justement, c'est dans le même sens qu'on va se poser, qu'est-ce que ma vie devrait être? Est-ce que je devais être là où je suis? Est-ce que je devais marcher ou suivre ce chemin? Qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour moi? Si je ne connais pas ce que le Seigneur a préparé, si je ne connais pas ses projets, comment est-ce que je peux m'attendre à ce que ces projets soient réalisés? Oui? Le Seigneur a préparé, il a prévu. Mais c'est quand quelqu'un te dit, j'ai préparé quelque chose pour toi, c'est rare que on ne demande pas à cette personne, ah, t'as prévu, qu'est-ce que t'as préparé pour moi? Ou quand une personne vient te dire, ah, j'ai pensé à toi, c'est rare qu'on s'arrête là. Ah oui, la personne a pensé à moi. Non. Au contraire, on va poser des questions. Ah oui, c'était par rapport à quoi? Pourquoi tu as pensé à moi? Pour savoir exactement est-ce que c'était un bien ou un mal. Pour Dieu, c'est toujours bien. Mais quand une personne nous dit, j'ai pensé à toi ou j'ai préparé quelque chose pour toi, je doute fort qu'on s'arrête là. On dit, OK, la personne a pensé à moi, la personne a préparé un truc pour moi. Donc, c'est bon, c'est assez. Non. Au contraire, on va poser la question, mais qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu as préparé? Même si on nous dit c'est une surprise, on va quand même insister, dire, oui, mais est-ce que tu peux me donner un indice? Tu n'as pas besoin de tout dévoiler maintenant, mais j'aimerais avoir un indice pour avoir une idée. C'est ça. Avec les hommes, on le fait, mais avec Dieu, on ne le fait pas. On ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions pour savoir qu'est-ce que le Seigneur a prévu, préparé pour nous. Quels sont ces projets dont le Seigneur me parle? Mais si je ne sais pas, si je ne connais pas ces projets, comment je vais faire en sorte que ces projets puissent être réalisés? Parce que dans le fond, il y a une part de responsabilité. Mais je ne peux pas savoir comment me conduire. Je ne peux pas savoir quel chemin emprunter sans savoir où je vais. Sans savoir, par exemple, si quelqu'un te dit, oui, je t'invite samedi, il y aura quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? Comment est-ce que je vais m'habiller? À quelle heure je dois arriver? Est-ce qu'il y aura d'autres personnes? Est-ce qu'on sera seul? Est-ce qu'on sera... Combien seront là? Qui seront là? Pour savoir, juste me préparer, savoir si c'est peut-être une grosse fête ou un truc entre amis, entre nous, comment m'habiller, comment me comporter, est-ce que je dois amener quelque chose? Tous ces détails. On en a besoin. Mais c'est rare qu'on ait cette présence d'esprit, cette conscience qui nous pousse à aller chercher loin, à aller demander à Dieu. Dieu nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Ce sont ces choses dont on a besoin. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des promesses, on a des prophéties, on entend des choses, des enseignements qui nous disent que des enfants de Dieu, on ne peut pas aller dire à quelqu'un qui n'a pas de toit, qui n'a rien à manger, oui, ton père, l'or et l'argent appartiennent à ton père. Mais c'est difficile de faire croire à cette personne qui est dans la rue, qui n'a rien à manger, qui n'a rien à se mettre sur le dos, et puis venir lui dire, ton Père céleste, tu sais que ton Père céleste est le propriétaire de tout ce que tu vois ici. Mais ce n'est pas toujours la faute de Dieu. D'ailleurs, il y a des épreuves, oui, que Dieu laisse nous arriver, mais ce n'est jamais sa faute. La plupart du temps, c'est nos fautes à nous, notre faute à nous. C'est nous-mêmes qui nous bloquons. Parce que quand on n'a pas cette information, c'est difficile d'avancer. Quand on n'a pas cette vision d'où est-ce qu'on va, c'est difficile d'emprunter le bon chemin. Et une autre question qu'on pourrait se poser, ou on doit se poser d'ailleurs, à quel moment ces projets doivent être exécutés dans ma vie? À quel moment ces projets vont être réalisés, vont se matérialiser. La manifestation physique de ce que le Seigneur a préparé, prévu pour moi. C'est à quel moment, à quelle date, à quel mois, à quelle année. Tout ça, ce sont des choses très, très importantes que nous devrions avoir comme information. Il y a des saisons. Si cette saison, le Seigneur a prévu quelque chose pour moi, il faut que je fasse tout pour l'avoir pendant cette saison. Parce que si cette saison passe et que cette chose ne s'est pas matérialisée, ne s'est pas manifestée, ça va être plus compliqué. Il va falloir attendre une autre saison, je ne sais pas, c'est dans combien d'années ou dans combien de temps. Si je devais, le Seigneur devait me bénir cette année. Et les gens disent, il faut rattraper le temps. Mais le temps, on ne peut pas le rattraper. Ce qui est passé est passé. On a cette illusion de dire souvent, ah, il faut que je rattrape le temps. Quelque chose, le temps qui est parti, il ne reviendra plus jamais. Donc, c'est à nous de faire en sorte que on soit dans le temps. Oui, Dieu nous dit, notre temps n'est pas le sien. Nos pensées ne sont pas les siennes. Effectivement, parce que la plupart du temps, on veut marcher, on veut planifier nos choses par rapport à notre temps, par rapport à nos pensées. Mais Dieu nous dit, vos pensées ne sont pas les miennes, votre temps n'est pas le mien. Donc, on a intérêt à nous conformer au temps de Dieu, à connaître la pensée de Dieu par rapport à nous. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur a comme projet pour moi pour cette année, pour ce mois-ci, pour cette semaine, pour cette journée, à cette heure-ci? Ce sont des choses qu'on doit avoir l'habitude de faire attention par rapport à ces choses, parce que c'est la base en fait, la base de la réalisation de ces projets que le Seigneur a pour nous, ces projets de paix, projets de bonheur. Mais nous ne pouvons pas avoir accès à ces choses, à ces projets. Oui, dans sa grâce, des fois, on peut avoir accès. Mais pour que nous puissions avoir un accès complet, il faut avoir cette vision de Dieu. Il faut avoir l'idée de ce que le Seigneur a préparé. Mais qu'est-ce que je dois faire afin que ces projets se réalisent? Tout simplement demander à Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? La plupart du temps, on demande à Dieu, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Seigneur, je te demande de faire ça, de faire ça, faire ça, faire ça. On est en train de donner des ordres à Dieu. Jamais on se pose la question, mais qui commande qui? Qui commande qui? Nous, on est là en train de dire, fais ça, fais ça, fais ça. Je veux que tu fasses ça. Je te demande de faire ça. Oui, c'est pas mauvais de demander. Mais la première chose à demander, c'était qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment tu as préparé cette journée pour moi? Et là, quand on prend cette conscience, on n'a même pas besoin de dire, bah, je te demande de faire ça. Parce que tu sauras pertinemment que ce que tu es en train de demander, ça ne concorde pas avec la volonté de Dieu de ce jour-là, ou de cette année, ou de ce mois. Mais c'est pour cela que le Seigneur disait dans Jacques, et il dit, Jacques 4 et 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On demande toujours, enfin, sinon tout 90%, en tout cas je parle pour moi, c'est pour moi, ce dont moi j'ai besoin. C'est rare que je me pose la question, mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a préparé? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? À quel moment? À quel endroit? C'est rare que je prie dans cette direction-là. De demander, papa, aujourd'hui ça va être comment? Je me conduis comment? Je porte quoi? Je mange quoi? Pourtant, ce sont des questions que nous devrions poser tout le temps. Parce que ce sont des questions qui sont très, très importantes pour connaître, pour savoir comment nous-mêmes nous comporter par rapport à la volonté de Dieu. Et quand on pose ces questions, le Seigneur est tellement content parce qu'il ne veut pas que nous éloignons de lui, il ne veut pas que nous nous égarons, il ne veut pas que nous perdions dans nos raisonnements ou dans nos planifications vaines qui n'aboutiront même pas. Donc, dans une perte de temps. Et après, quand ce que nous avons planifié de nous-mêmes, sans consulter le Seigneur, voire, on est frustré, on commence à murmurer, on accuse Dieu que c'est lui qui n'a pas exaucé nos prières, alors que c'est totalement nos fautes, notre faute. C'est totalement nous qui n'avons pas consulté le Seigneur. C'est totalement nous qui nous fions sur notre intelligence, qui pense qu'on est capable d'accomplir des choses sans le Seigneur, sans la participation de Dieu. C'est cette insuffisance, cet orgueil qui nous pousse à rater beaucoup de choses, à retarder justement ces projets de Dieu dans nos vies. Parce que tant que nous sommes dans ces histoires, dans ces raisonnements, pensant que nous sommes capables de le faire, pensant que nous n'avons pas besoin de Dieu, des fois c'est inconsciemment. Ce n'est pas parce que on dit, moi, j'ai pas besoin de Dieu. Mais non. Mais c'est vraiment quand on se réveille le matin, je veux faire ça. Ah oui, on fait nos agendas, on fait nos, que ce soit l'agenda de la semaine, que ce soit l'agenda de l'année. On planifie, oh, ok, tel jour, c'est ça, ta, 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 des vacances, là, ainsi de suite. Sans même passer une seconde ou une minute à genoux, en train de poser la question, papa, où est-ce que je vais mettre mes vacances? Où est-ce que je vais mettre tel et tel événement? Ainsi de suite. C'est ça, en fait, l'orgueil qui pousse les gens à renier le Seigneur, à penser qu'ils sont capables de faire, d'accomplir des choses, même si on ne le dit pas à haute voix que j'ai pas besoin de Dieu, mais on le manifeste pareil. C'est cette autosuffisance qui nous met dans le fond des bâtons dans les roues, qui met les bâtons dans les roues au projet de Dieu. Et quand ça ne s'accomplit pas, on ne s'assoit pas pour regarder en arrière, qu'est-ce que moi j'ai, c'est quoi ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire ou qu'est-ce que je n'ai pas fait que je devais faire. Ce sont des questions qui sont très importante à se poser. Quand je disais qu'est-ce que je sais de ma vie? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut poser comme question à Dieu. À commencer par exemple par le nom. Le nom que je porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui vient avec son nom? La plupart du temps, on donne les noms aux enfants, soit les noms de leur père, de leur grand-père, ou des membres de la famille. Mais qu'est-ce qu'on connaît de ces gens-là? Parce que aussitôt qu'on donne le nom à cet enfant, son nom est déjà chargé. Est-ce que son nom est un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie? Si c'est oui, qu'est-ce que je dois faire? Ça aussi, c'est une autre question qu'il faut poser à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce nom que je porte ne soit plus un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie? Comme on est au courant, on voit dans la Bible, Dieu lui-même a changé des noms des gens. Ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il y avait une raison. Alors quand on prie, commençons par nous-mêmes, posons la question. Le nom que je porte, est-ce que c'est un bon nom? Est-ce que c'est un nom qui va me causer des problèmes ou qui me cause déjà des problèmes? Le jour de ma naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent le jour de la naissance d'un enfant. Et surtout quand c'est un enfant qui naît dans une famille qui n'est pas dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent pendant la naissance et juste après la naissance. Toutes ces choses sont des choses qui ne nous, qui ne, qui ne nous, bah, je dirais, qui nous sont nuisibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait ce jour-là? Qui a fait quoi? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour remédier à la situation? Parce que, veux, veux pas, il y a des choses qui sont là, ancrées dans nos vies. Dans nos vies familiales, dans nos vies, ce qu'on appelle les liens familiaux, tant que ces choses ne sont pas brisées, tant que ces choses ne sont pas déracinées, ces choses vont bloquer beaucoup de choses. Ces choses vont bloquer beaucoup de choses et, encore une fois, on est frustré, on ne sait pas pourquoi, on prie nuit et jour, on jeûne, on fait tout, mais les choses ne bougent pas. On honore le Seigneur, on dit, oui, par exemple, la personne qui a un problème de finances, au niveau des finances, elle va se dire, moi, j'honore le Seigneur, je paie ma dîme, j'aide les gens, mais mes finances ne décollent pas. Alors il va falloir chercher pourquoi ça ne décolle pas. Et encore une fois, interroger le Saint-Esprit. Interroger le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va révéler des choses cachées. Comme le Seigneur nous dit lui-même, c'est lui qui va nous révéler ces choses. Moi, j'aime bien David. David, c'est quelqu'un qui avait vraiment compris l'importance de la communion avec le Seigneur. David, c'est un grand roi. Un roi qui est redouté par les autres rois. À l'époque, c'était par le monde. Tous les rois de cette époque connaissaient le nom de David parce que c'était un guerrier hors pair. C'était un guerrier invincible. C'était quelqu'un qui n'avait jamais, jamais essuyé une défaite complète. Des fois, il y avait des petites choses, mais il savait comment redresser la situation. Il savait où aller. Chaque fois, David, avant même qu'il ne commence une guerre, il commençait déjà à prier. Il commençait déjà à demander à Dieu comment, des stratégies, comment il va faire, à quel moment, à quel endroit. Et quand on lit les psaumes, On comprend comment il attachait une grande importance à la connaissance de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de cette guerre-là que je vois pointer le nez? Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que tu, ô Éternel, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu me recommandes? Il faisait des holocaustes, il donnait des sacrifices à Dieu. Il n'a jamais sorti combattre avant d'avoir la réponse de Dieu. Toujours, tous les jours, il commençait par la prière. Et tant que le Seigneur n'a rien dit, il bougeait pas. Même quand les autres armées venaient jusqu'à la porte de Jérusalem, de la Juda, dépendamment d'Israël, il ne bougeait pas. Tant que Dieu n'a pas donné son feu vert, tant que Dieu ne lui a pas dit, passe par là, fais comme ça, attaque à telle heure, à tel moment de la journée, prends autant d'hommes, il ne bougeait pas. Il restait attendre. C'est ça qui est merveilleux avec David. Ça nous montre ou ça nous enseigne comment nous comporter nous aussi dans nos vies. Comment nous devons agir par rapport à ces projets de Dieu que le Seigneur a pour nous, à tout ce que le Seigneur a préparé. Quand il demandait à Dieu, sors de moi et vois si je suis sur une bonne route. Je paraphrase. Il dit, sors de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi. Et connaît mes pensées. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous captez la profondeur de cette prière. Sonde mon cœur. Connaît mes pensées. Ce sont des choses qu'on ne voit pas de nos yeux. Ce sont des choses qui sont cachées à nous. Et ce sont des choses, des fois, on ne se rend même pas compte. Mais Dieu connaît nos cœurs, mais Dieu connaît nos pensées. C'est pour cela que David demandait à Dieu, toi qui vois tout, toi qui sais tout, parle-moi, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis sur une bonne route? C'est pour cela qu'il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Combien de fois on demande à Dieu de regarder si on est sur une mauvaise voie? Même quand on choisit nos voies et que, arrivé à un moment donné, on est bloqué, on revient comme si rien n'était. On essaie autre chose. Au lieu de dire, ah, papa, pardon, cette fois-ci j'ai compris, je ne le referai plus. Le lendemain, on refait la même bêtise, on se réveille, hop, on change de direction, et voilà quoi, on trace. Mais David dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il n'a même pas dit si je suis sur une bonne voie. D'emblée, il sait que de lui-même, il ne peut pas savoir. C'est pour cela qu'il a une mauvaise voix. Il sait que seul Dieu connaît la bonne voie. Seul Dieu sait ce qui est bon pour nous. Ce que nous pensons est vain. Ce que nous avons comme idée. C'est pas valide. Ce que nous planifions nous-mêmes, la majorité du temps, ne concorde pas avec les projets de Dieu. Ce que nous avons comme vision ne concorde pas avec la vision de Dieu. Dieu nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est-à-dire que de notre propre chef, nous élaborons des choses, nous confectionnons des plans sans toutefois le consulter et on peut espérer que ça va marcher. C'est là où le Seigneur nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si on connaît ce que le Seigneur a dit, si je connais le projet de cette année, comment est-ce que je vais demander mal? C'est comme si tu un militaire ou un soldat qui est sur le front, il y a deux soldats, il y a un qui voit sa cible et l'autre qui n'a aucune idée d'où se trouve sa cible. Celui qui voit sa cible, il va bien viser. Non seulement il ne va pas gaspiller ses munitions ou son temps, ça va être vite fait, bien fait. Et celui qui n'a aucune idée, il va passer le temps à chercher ou peut-être à tirer un peu partout pour pouvoir ça, et en espérant qu'il va toucher la cible. Et la plupart du temps, le résultat est négatif. Tandis que pour le premier, positif, moins de temps et bien fait. C'est ça que nous devrions faire. Ne pas demander mal, mais demander avec intelligence, c'est-à-dire avec la révélation de Dieu, avec les directions, les directives de Dieu. Parce que quand on sait quoi dire, quoi faire, c'est facile, c'est moins compliqué, c'est moins fatigant, c'est moins frustrant et c'est beaucoup plus cette paix-là qu'on va avoir. C'est cette espérance. Parce que si je sais que dans 2 mois, je vais avoir quelque chose, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était enfant, on nous dit le mois prochain, on va t'acheter quelque chose, des chaussures ou des vêtements. Tellement qu'on était content, on comptait les jours. Et on n'allait plus se demander, mais quand est-ce que j'aurai mes vêtements? Quand est-ce que j'aurai mes chaussures? On avait la. L'échéancier, on avait comment dire, oui, l'échéancier, on savait quand est-ce qu'on va avoir cette chose. Et on avait la paix, on avait l'espérance, on avait la joie dans nos cœurs. C'est ça ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire maintenant, aujourd'hui, à partir de maintenant. Si vous ne le faisiez pas avant, commencez. Changeons de comportement, changeons de façon de faire, changeons la mentalité pour pouvoir accéder justement à ces plans, à ces projets, à tout ce que le Seigneur finalement a préparé pour nous. Ce que je veux dire, c'est avoir cet accès à ce que le Seigneur a prévu, préparé pour nous. Il dit: vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est sûr qu'il va exaucer. De toute façon, c'est déjà fait. En fait, c'est quoi l'exaucement, en fait? C'est avoir cet accès parce que les choses sont déjà là. Ce sont des projets qu'il a déjà mis en place depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il attend, lui? C'est que nous puissions avoir accès. C'est ça l'exaucement dont il parle. C'est que nous puissions avoir accès à ces choses. Que ça soit à l'intelligence, que ça soit quand il dit je veux que tu prospères à tous égards. Quand on parle de prospérité, c'est pas seulement les choses matérielles. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a beaucoup, beaucoup de choses que le Seigneur a préparées, prévues pour nous. Mais qu'on n'a pas accès maintenant parce que On ne connaît même pas ces choses. On ne sait pas quand est-ce qu'on devait en avoir ou quand est-ce qu'on doit en avoir. Comment, par quel moyen avoir cet accès? C'est pour cela que le Seigneur nous rappelle, nous ramène à la raison, en fait, parce qu'il veut que nous puissions avoir cet accès direct à toutes ces bénédictions. Il dit que ça se renouvelle chaque matin, ces bénédictions, ces compassions ne sont jamais épuisées, ça se renouvelle chaque matin. Chaque jour a son lot de bénédictions. Et chaque matin, toutes ces choses sont relâchées. Mais il y a des choses qui sont relâchées, mais que nous ne parvenons pas à avoir. Justement parce qu'il y a des choses qui bloquent. Ou quand il relâche ces choses, nous ne sommes pas là pour les recevoir. C'est vraiment triste, je trouve. Mais c'est à nous de changer la façon de faire. C'est à nous de changer nos comportements. C'est à nous de changer à comment opérer maintenant par rapport à ce que le Seigneur a prévu, préparé pour nous. S'il y a des choses à changer dans nos vies, s'il y a des choses qui doivent être déracinées, parce que la parole de Dieu, encore une fois, c'est Jésus-Christ qui répondait aux pharisiens, enfin, à ses disciples qui parlaient des pharisiens. Il dit, toute plante, dans certaines versions, ils disent tout arbre n'a pas été planté par mon Père céleste doit être déraciné ou doit être arraché. Je paraphrase, mais c'est ça. Il y a des choses à déraciner, il y a des choses à enlever afin que nous puissions avoir cet accès. Mais comment le faire? C'est vraiment demander à Dieu, c'est lui qui nous donne les stratégies, c'est lui qui nous enseigne comment faire. Et quand c'est lui qui nous donne ces stratégies, ça va aller vite. C'est vraiment rapide parce que lui, il connaît, il voit tout, il sait tout. Alors au lieu de perdre du temps à vouloir s'en sortir seul ou de notre propre chef, notre propre force, à aller à la source. Aller à la source et demander à Dieu comment on peut faire, comment on peut atteindre le but que le Seigneur avait préparé pour nous. Parlant de stratégie, j'ai quelque chose qui m'a vraiment frappé. Dieu est un Dieu de détails. La plupart du temps, on pense que il y a des petites choses qu'on n'a pas besoin d'impliquer le Seigneur, mais sachant que c'est un Dieu de détails. Petit détail, Dieu est là-dedans. Je lisais dans Ézéchiel 4, 1 à 2, qui nous dit, et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège. Forme des retranchements. Élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp. Dresse contre elle des béliers tout autour. Amen. Vous comprenez comment Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Dieu, c'est un Dieu de planification par excellence. Donc, on ne peut pas comparer nos planifications ou nos stratégies, nos agendas à Dieu. Jérusalem, là, c'était à un moment donné, Dieu était fâché contre Jérusalem. Il était en train de montrer comment Jérusalem va être occupée, attaquée, détruite. Et Vous imaginez toute une ville sur une brique et il donne les détails comment on doit encercler Jérusalem, on doit attaquer Jérusalem sur une brique. Donc il n'a pas dit va sur, je sais pas, dans la rue ou sur un mur. Non, une brique. Donc moindre petit détail, moindre petite chose. Dieu est là-dedans. C'est à nous de vouloir ou chercher à l'impliquer dans nos vies, dans nos détails, dans tout ce que nous faisons à la fin, afin que nous puissions vraiment avoir accès à ces projets-là que le Seigneur a pour nous, a formés pour nous, avant même que nous ne soyons, avant même que nous n'en naissions. Lui, il nous connaissait, il avait déjà planifié notre vie. Est-ce que la vie que nous menons maintenant correspond à celle que le Seigneur avait préparée, prévue pour nous? C'est la bonne question à se poser. Alors, si ce n'est pas la même chose, mais en même temps, on ne pourra pas savoir si on ne va pas consulter le Seigneur, le Saint-Esprit, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur avait prévu, qui n'a pas été accompli. Est-ce que notre vie est la même que celle que le Seigneur avait préparé? Quels sont ces projets que le Seigneur parle, qu'il avait prévus? Projets de paix et de bonheur. Est-ce que nous jouissons réellement de ces choses? Si oui, que le Seigneur soit glorifié. Sinon, c'est à nous d'aller chercher, aller savoir, et l'information, nous la trouverons, pardon, facilement. Parce que Dieu révèle à ses enfants. Donc, voici ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de vous partager et je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen.